Radio Okapi.
La une. Poursuite des combats phares des CM23 depuis tôt ce matin aux environs de Rutshuru et Kiwanja au nord Kivu. Cette situation accroît la panique des populations locales qui fuient déjà leur milieu, rapportent des sources sur place. Les responsables militaires n'ont pas encore communiqué à ce sujet. Publication hier soir du gouvernement de la province de la Tchopo. Cela 5 mois après l'entrée en fonction de la gouverneure Madeleine Nikomba. Une première dans l'histoire de la Tchopo. 3 femmes composent cette équipe de 10 ministres. Et puis, l'archidiocèse de Kisangani a clôturé récemment l'année jubilaire de 125 ans d'évangélisation par les missionnaires de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. Mais quel bilan faire de ce siècle d'évangélisation dans la Tchopo? Réponse avec notre invité, l'abbé Victor Mbatou, directeur du centre de pastoral à l'archidiocèse de Kisangani. Madame, messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord au nord Kivu. Les affrontements opposant les forces armées congolaises aux rebelles du M23 se sont poursuivis depuis tôt ce samedi dans les environs de Rutshuru et Kiwanja. Selon des témoins sur place, la situation accroît la panique des populations, poussant les uns à fuir le lieu. Ces combats qui se déroulent dans les proximités de la nationale numéro 2 ont coupé depuis hier le trafic routier Goma-Rutshuru. Reportage de Goma, rendu ici par Piero Elamenji.
Depuis 8 heures, locales des tirs nourris ont été entendus dans les environs des Nyongera, à 2 kilomètres de Kiwanja et autour du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Selon les sources sur place, l'intensité des combats ont diminué d'un cran autour de 9 heures locales. Ce ne sont plus que des tirs sporadiques qui sont entendus autour de Kiwanja. Les habitants cachés dans leurs maisons évoquent entre eux la prise de Kiwanja par les rebelles du M23. Une information non encore confirmée par les sources officielles. Les responsables militaires n'ont pas encore communiqué en sachant que la plupart des autorités locales ont quitté les lieux. Ce samedi matin, les éléments FARDC ont été aperçus par la population en train de se replier vers le nord de Kiwanja. Ce retrait a accentué la peur de plusieurs habitants qui ont préféré fuir la cité. Les plus courageux sont restés enfermés chez eux. D'autres se sont regroupés autour de la base de la MONUSCO. Rappelons que jusqu'hier, les rebelles du M23 contrôlaient déjà la quasi-totalité des groupements Busanza, Djomba, Bweza et Kisiragi, ainsi que quelques villages du groupement des Rugari, 31 km au nord de Goma.
Par ailleurs, concevoir et planifier une réponse humanitaire urgente et appropriée pour la prise en charge des déplacés de Rutshuru et environ après les attaques du M23, c'est l'objectif de la réunion présidée hier par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Cette rencontre a connu la participation des humanitaires. Modeste Mutinga a souligné qu'il y a urgence d'ouvrir un corridor humanitaire afin d'assister ces déplacés qui, selon lui, sont estimés à 34 000 personnes. Le ministre Modeste Mutinga Mutuchai explique au micro de Paul Matendo Mayamba.
Ces déplacements massifs nécessitent un plan de réponse rapide. Un plan de réponse en termes de recherche de terres et de sites pour amener ces nombreux déplacés. En termes de transport pour les amener vers là. En termes de soins de santé pour pouvoir souvenir à leur état physiologique. En termes d'alimentation pour pouvoir les permettre de survivre. Et elle concerne plus ou moins 34 000 de déplacés à ce jour. Et qu'il y a urgence que les voies d'accès soient ouvertes pour les humanitaires d'avoir accès aux nombreux qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont restés là où il y a la guerre, mais aussi ceux qui sont fatigués et qui tombent en cours de route. Aussi pour apporter l'assistance aux nombreux qui sont sur le parcours. Donc les voies d'accès doivent être assurées.
Entre-temps, la MONUSCO annonce la reprise de ses vols nocturnes pour des exercices militaires, annonce faite par le chef du bureau de la mission onusienne en Ituri lors d'un point de presse qu'il a animé hier à Bunia. Il s'agit d'une activité de routine qui permet aux pilotes de se familiariser avec la zone en vue d'être prêts pour des appuis aux phares d'essai engagés au combat ou pour évacuer des blessés au front. Marc Carnassoro ajoute que ces exercices qui vont se dérouler dans des zones ciblées selon les besoins visent également à prévenir la désinformation à laquelle se livrent certaines personnes pour ternir l'image de la MONUSCO. Marc Carnassoro, chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, s'exprime au micro de Jean-Claude Lokidile.
Nous sommes engagés aux côtés du gouvernement dans la protection des populations civiles.
Il vous souviendra encore de qu'il y a 2 mois, nous avons dû évacuer une vingtaine de civils blessés à Damas, sur Bounia. Naturellement, cela s'est fait de jour. Mais il peut advenir que nous ayons une situation de nuit où des personnes aient besoin urgemment d'être évacuées et d'être prises en charge. Mais pour cela, nos équipages ont besoin de maîtriser ce terrain-là. Il peut aussi arriver que nous soyons appelés en renfort au FRDC en cours de nuit. Et là aussi, il faut que nos équipages maîtrisent ce terrain-là. Donc c'est dans ce cadre que nous procédons à des vols de familiarisation pour nos équipages, pour qu'ils se familiarisent avec ces terrains difficiles. Donc nous n'avons pas intérêt à faire un travail et aller nous-mêmes saboter ce travail. À quoi servirait-il d'aller protéger les gens dans le camp de Drodro s'il faut venir après donner des armes à des personnes pour aller les attaquer?
Retour au Nord Kivu. L'armée et les acteurs de la société civile s'élancent dans la lutte contre les mauvaises informations et les intoxications de la population à travers les réseaux sociaux. Cette campagne intervient après que plusieurs incidents sécuritaires et altercations ont été enregistrés entre les jeunes et les services de sécurité. Le point avec Marc Marofimbo.
Ce sont les messages lancés par les Ekonis dans les réseaux sociaux appelant les jeunes au soulèvement contre les forces de l'ordre et même les autorités de l'état de siège dans les villes de Butembo, Beni et même dans les territoires de Lubero. Si la société civile de ces entités appelle les jeunes à se rallier aux efforts du processus de la paix, l'armée pense que cela ne peut freiner les opérations en cours dans la région. Le capitaine Anthony Malouchaï est le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord.
Nous sommes dans une opération qui ne sera jamais perturbée ni par des messages d'intox ni par des grimaces que nous attendons dans les réseaux sociaux. Nous sommes déterminés à donner la paix à notre population, de gré ou de force, parce que c'est notre mission. Donc Butembo sera nettoyé et tous les semeurs d'eau en trouble seront mis hors d'état de nuire. Que ça soit à Bachou, nous sommes en opération, que ça soit dans la ville de Butembo. Donc partout, nous allons mener les opérations pour donner la paix à notre population.
Même point de vue des autorités établies de l'état de siège qui appellent les jeunes à s'approprier les opérations militaires dans cette partie de la province qui reste encore menacée par l'insécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo. Environ 5 mois après son entrée en fonction, le gouverneur de province, Madame Madeleine Nikomba, a publié hier dans la soirée son cabinet ministériel. Il est composé de 10 ministres, dont 3 femmes, une première dans l'histoire des gouvernements provinciaux qui se sont succédés dans la Tchopo. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
Parmi les membres du gouvernement provincial, on compte 3 femmes. Il s'agit de Léonie Irène Mouamini. Cette députée provinciale se voit confier le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. La 2e femme est un médecin, Madame Annelle Kamba, va gérer le ministère des Hydrocarbures, Énergie et Ressources Naturelles. La 3e et dernière femme de cette équipe ministérielle est Bernadette Fourard, ancienne ministre provinciale dans le gouvernement Lomata et les membres du parti politique Burek de Julien Paluku. Et notre fait remarquable dans ce cabinet, c'est la reconduction de Georges Lumalizamonde, ancien ministre de l'EPST dans le gouvernement Wale Lufungula. Il se voit confier le même poste dans le gouvernement actuel. Il en est de même de Norbert Lokula, ancien ministre des Finances. Il s'occupe de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Première réaction des politiques Boyomé, notamment celle des Nouvel Élan. Les personnes vivant avec handicap ont été oubliées. Quoi qu'il en soit, ce cabinet a la lourde tâche de traduire en acte la vision de Madeleine Nikomba, à savoir il faut que Tchopo et Bunga. La Tchopo doit s'améliorer. En effet, la voirie urbaine, les routes de desserte agricole et l'électricité figurent parmi les grands problèmes à résoudre dans cette juridiction. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Bukama. Nous sommes dans la province du Olomami. Ici, nous apprenons que les éléphants en divagation continuent de ravager des grandes étendues des champs. L'alerte est lancée par l'administrateur du territoire assistant chargé des questions politiques et administratives. D'après Trudon Lengue, les chefferies les plus touchées sont Kapamai et Kinkonja, ainsi qu'une partie du secteur de Lualaba. Voilà pourquoi il plaide pour que l'ICCN refoule ses pachydermes dans le parc de Lupemba, d'où ils sont venus, car les populations victimes vivent dans la détresse. L'administrateur du territoire assistant, Trudon Ilunga Lengue, explique la situation au micro de Jean Gandou.
Pitié de signaler la dévastation de champs. Vraiment, selon le rapport que nous avons recueilli de l'inspecteur territorial de l'agriculture, il y a des centaines d'hectares de champs de maïs, manioc, parmeré et autres qui ont été totalement détruits depuis le mois de juillet jusqu'à présent. Alors, je pense que nous demandons que le pouvoir central, en collaboration avec l'ICSN, que des mesures appropriées soient prises, d'abord pour les trois entités qui sont en dehors du parc. Également aussi, faudra-t-il le rappeler encore que la situation alimentaire dans la chefferie de Boutoumba, qui est totalement dans la zone intégrale du parc, est très alarmante. Étant donné que les éléphants restent dans les villages aux côtés des populations civiles, donc tous les champs de la population riveraine du parc sont totalement détruits. La chefferie risque de devenir un désert. Voilà pourquoi nous demandons aux humanitaires, aux organisations internationales qui appuient le parc national de Lupemba, de soutenir cette population qui est dans une situation de détresse depuis plusieurs années.
Dans l'actualité, sachez aussi que la compagnie aérienne Air France, qui annonce l'inauguration de sa saison hiver 2022-2023, dans un communiqué publié ce week-end, Air France annonce le renouvellement de son offre dans le ciel congolais avec l'arrivée de l'Airbus A350. Pour Olivier Jallet, directeur Air France KLM pour la RDC, l'arrivée de ce nouvel appareil, qui est un des plus performants au monde sur les plans environnemental, économique et opérationnel, marque une nouvelle étape dans l'histoire de la ligne Kinshasa-Paris. Nous sommes heureux d'offrir à nos clients de la République démocratique du Congo l'exclusivité du premier voyage en Afrique centrale de l'Airbus 350 d'Air France. À compter du 30 octobre, ils pourront découvrir le meilleur confort et service à bord de ces nouvelles cabines, indique ce responsable dans ce même communiqué. Et puis, ce mois d'octobre est dénommé Octobre Rose et dédié à la campagne de lutte contre le cancer du sein. Dans le Maniema, l'association des femmes médecins œuvrant au Maniema, AFEMOMA en sigle, profite de cette occasion pour organiser sa troisième campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers gynécologiques, ce avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population dans deux zones de santé du Maniema. Florence Kiza, reportage.
Cette campagne de 10 jours cible 1000 femmes de zones de santé d'Alungoli et de Kailo qui n'ont pas bénéficié des deux dernières campagnes. La présidente de AFEMOMA, Dr Olive Mbambula, insiste sur le fait que les cancers du sein constituent un véritable problème de santé publique.
Les causes des cancers du sein ne sont pas connues, mais il existe quand même des facteurs de risque. Raison pour laquelle la prévention semble être difficile, d'où il faut un dépistage précoce comme principal moyen de lutte. Si le cancer du sein est dépisté au stade précoce, les diagnostics et les traitements appropriés donnent un bon pronostic. Voilà la raison de sensibiliser. Nous nous rappelons que au moins 2 sur 10 femmes ont une boule au niveau de leur sein. Sur 10 boules, au moins une boule est un cancer. Et sur 3 cas de décès en RDC, au moins un cas est cas de cancer du sein. Raison pour laquelle le cancer du sein est vraiment un problème de santé publique.
Le cancer est guérissable lorsqu'il est diagnostiqué et pris en charge au stade précoce. Mais la plupart des patientes décèdent parce qu'elles se font consulter au stade avancé de la maladie, conclut cette gynécologue. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nord Kivu, les conditions carcérales et de détention dans la prison de Mounzenze de Goma s'améliorent progressivement, cela grâce à l'appui de l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF Hollande. Le responsable du centre médical de la prison Mounzenze, qui a livré cette information hier à Radio Kapi, précise qu'avec l'aide et l'appui alimentaire de cette organisation internationale, les détenus de Mounzenze ont changé de visage, selon ses propres termes. Il ajoute que cette assistance n'est pas inscrite dans la durée et que le gouvernement doit continuer à subventionner la prison comme à l'accoutumée. Docteur Marcelin Kamavu s'est confié au micro de Gabriel Ouamenia.
MSF Hollande est à la prison depuis mi-avril 2022. Et MSF est venu d'abord pour la riposte contre le choléra qui avait déjà élu domicile depuis le 17 février et jusqu'à fin juin. Les cas continuaient à se documenter. Et après avoir maîtrisé le choléra, il fallait maintenant que MSF prenne en charge la malnutrition aiguë sévère, prenne en charge alimentaire, mais aussi le soutien psy aux personnes vivant avec le VIH, mais aussi MSF est en train de prendre à charge la gale, mais également les infections sexuellement transmissibles. Donc c'est un effort très 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 important. Vous avez visité les détenus, ils ont changé vraiment de visage. Ce n'est pas l'ancienne robe qu'ils portaient, qu'ils sont en train de porter aujourd'hui. Donc l'impact est vraiment sensible.
Rappelons que la prison centrale de Mounzenze de Goma héberge, actuellement plus de 3000 détenus, dont la plupart sont en détention irrégulière, à en croire certaines organisations de défense des droits de l'homme.
Actualité internationale.
Nous sommes en Éthiopie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait état hier d'une forte augmentation des cas de paludisme dans la région éthiopienne de Tigré, où rebelles et forces gouvernementales s'affrontent depuis près de 2 ans. Au Tigré, les cas de paludisme ont augmenté de 80% par rapport à la même période l'an dernier, a déclaré la responsable des opérations d'urgence de l'OMS pour l'Éthiopie lors d'une conférence de presse à Genève. L'OMS a fait parvenir un peu de matériel de mars à août pendant la trêve humanitaire, mais le manque de carburant a fortement limité le réapprovisionnement des centres de santé dans la région. L'OMS n'ayant pas accès à la région, les informations dont elle dispose lui parviennent au compte-gouttes chaque semaine via les centres de santé, indiquent ses responsables.
L'invité.
Nous sommes dans la province de la Tchopo. L'archidiocèse de Kisangani a clôturé le dimanche 24 octobre dernier l'année jubilaire de 125 ans d'évangélisation par les missionnaires de la congrégation de Sacré-Cœur de Jésus. C'était au terme d'un culte d'action de grâce dit à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi. Quel est le bilan de la présence des prêtres catholiques durant les 125 ans d'évangélisation dans la Tchopo? Le directeur du centre de pastoral à l'archidiocèse de Kisangani en parle, l'abbé Victor Mbatou, s'entretient avec Jacques Mokonkole.
Monsieur l'abbé Victor Mbatou, bonjour.
Bonjour.
L'archidiocèse de Kisangani vient de clôturer ce dimanche l'année jubilaire des 125 ans d'évangélisation dans cette entité pastorale. Quel bilan pouvez-vous tracer sur le plan évangélique?
Oui, sur le plan évangélique, aujourd'hui dans notre archidiocèse, nous avons l'érection des paroisses, une trentaine de paroisses, avec 5 quasi-paroisses qui sont en projection d'être érigées en paroisses, qui permettent aux gens d'écouter la parole de Dieu.
Monsieur l'abbé Victor, certains coins de votre entité ne sont pas encore couverts en évangile. D'autres sont quasiment dépourvus du personnel. Je pense ici à Opiengé, par exemple. Comment pouvez-vous expliquer cela?
Il est vrai que nous avons des paroisses qui ne sont pas desservies pastoralement, faute de personnel. Il y a l'effectif, vous avez vu, l'effectif fait problème, mais aussi nous avons des confrères qui sont prêts à faire l'itinérance, mais pour des raisons de sécurité, ces axes ne sont pas desservis à temps réel.
Monsieur l'abbé, la mission de l'Église n'est pas qu'évangélique, elle concerne aussi la formation intégrale de l'homme, pour ne pas parler de son bien-être. Que pouvez-vous dire sur le plan social?
Oui, je pense qu'au niveau social, nous avons un bureau de Caritas Développement qui est l'expression de la pastorale sociale de l'Église. Il est vrai que par le passé, nous recevions de nos frères du Nord des subsides, des aides pour venir en aide à nos frères et sœurs qui sont dans l'indigence. Mais je pense que avec la célébration des 125 ans, et dans laquelle nous sommes agrégés de par le baptême, nous sommes tous membres de cette Église. Si chacun de nous donne de son indigence, l'Église peut avoir des moyens pour assurer à temps réel cette pastorale sociale. Parce que pour construire les hôpitaux, pour construire les écoles, pour construire les orphelinats, pour construire même l'université, l'Église a besoin de moyens. Mais il faut que maintenant, les fils et filles de l'archidiocèse de Kisangani se rendent compte que nos frères du Nord qui nous venaient en aide, leur générosité commence à diminuer et que localement, nous devons être plus généreux et donner à notre Église des moyens nécessaires pour asseoir sa pastorale et surtout la pastorale sociale. Et
en suivant l'homélie de Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi, Kisangani peut être considéré comme le ventre mou parmi les six diocèses diocèse de cette juridiction pastorale, dans la mesure où elle ne contribue pas assez dans le cadre de la solidarité nationale et internationale. Quelles sont les causes à la base de cet état des choses?
Oui, je pense que d'abord, il y a des facteurs que je considère de par l'évangélisation. Par le passé, on n'a pas suffisamment sensibilisé les fidèles chrétiens pour comprendre que l'Église vit de la générosité des fidèles. Pendant que la main était plus tendue vers l'Occident, il fallait en même temps, nous comme agents pastoraux, œuvrer dans le sens de former, informer les fidèles chrétiens à être plus généreux. Ça c'est un premier point, parce que par le passé, vous allez voir dans beaucoup de paroisses, les gens allaient plutôt à la paroisse chercher de l'argent, chercher de l'aide, mais maintenant ils doivent comprendre que non, la paroisse n'est plus le lieu où nous devons aller chercher les moyens, mais nous devons plutôt aller déposer des moyens pour que la paroisse ait de quoi subvenir aux besoins des indigents. Alors, il y a aussi un autre problème. Là où l'archidiocèse de Kisangani est établi, c'est un ventre mou d'insécurité. Sur le plan sociopolitique, Kisangani, sa position géostratégique, reçoit beaucoup de personnes qui viennent des provinces en insécurité. Alors, ils arrivent ici, mais dans des conditions d'indigence. Et à Kisangani, vous voyez, sur le plan socio-économique, les grandes entreprises comme la Sauteski, la Sorgerie, qui résorbaient l'emploi, aujourd'hui sont presque fermées et ça fait qu'il y a beaucoup de chômeurs.
Alors, que doit faire l'archidiocèse de Kisangani pour inverser la tendance?
Alors, je pense que tout partirait d'abord au niveau de la paroisse. Je pense que avec les journées pastorales de cette année, qui parlent de la gestion administrative et pastorale de la paroisse, quand déjà on aura investi cette culture de gestion redevable, à ce moment-là, les fidèles chrétiens connaîtront que l'Église, ce n'est plus l'affaire des prêtres, des curés seuls, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et connaissant les problèmes de base, ils vont s'impliquer.
Monsieur l'abbé Victor Mbatou, merci.
Oui, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité.
Notre invité répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal coordonné par Pierrot et la Menji. Mimi Kindou à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.